RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir chers auditrices et chers auditeurs des quatre points du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique Mon Indonésie. Et la rubrique suivante est le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Les négociations sur les zones frontalières indonésiennes et malaises seront achevées dans 2 mois. Contrecarrer le mouvement anti-vaccin, le ministre indonésien de la Santé coopère avec la société. Le gouvernement d'Indonésie élargira la feuille de route de l'économie de Syariah. La Chine investit 2,54 milliards de dollars américains dans une aciérie à Kendal, le centre de Java. Et enfin, la ministre Rini a offert les potentiels dans cet secteur d'affaires aux investisseurs américains. Voici le journal complet. L'Indonésie et la Malaisie ont convenu d'accélérer les pourparlers sur les frontières entre les deux pays. On souhaite que la négociation frontalière puisse aboutir à un accord sous la forme de l'accord sur le passage frontalier ou BCA dans les 2 prochains mois. Parce que le commerce frontalier ne commencera pas si le BCA n'est pas résolu. Cela a été dit par la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, dans un communiqué de presse avec le ministre des Affaires étrangères de la Malaisie, Abdullah Saifuddin, au ministère indonésien des Affaires étrangères récemment.
Untuk batas darat, kita itu sekarang sedang menegosiasikan yang dinamakan border crossing agreement.
Pour les frontières terrestres, nous négocions ce qu'on appelle l'accord sur le passage frontalier. L'accord sur le passage frontalier est vérifié mutuellement. Nous sommes d'accord que dans 1 ou 2 mois, nous pouvons le terminer. Si cet accord est terminé, le commerce frontalier peut commencer à discuter. Parce qu'il n'y aura pas de coopération sur le commerce frontalier si le passage frontalier n'est pas encore terminé. Oui, que nous voyons OK, nous allons essayer de terminer l'accord sur le passage frontalier au BCA au moins dans 2 mois. Selon la ministre Retno Marsudi, pour les points frontières des zones marines, le détroit de Malacca et la mer de Célèbre seront une priorité pour les négociations dans un proche avenir. Après les 2 points frontalières convenus et officialisés, les négociations seront continuées aux autres points frontaliers. En outre, les 2 pays ont également donné un mandat complet à l'équipe technique à être formée des parties prenantes liées aux zones frontalières des 2 pays. L'équipe technique fera rapport au ministère des Affaires étrangères qui détermine ce qui devrait être résolu rapidement. La Malaisie est un pays voisin avec la plus longue frontière avec l'Indonésie, à la fois les frontières terrestres et maritimes. L'émergence de mouvements anti-vaccinaux jusqu'à présent est l'un des défis qui sont confrontés divers pays dans le monde, y compris en Indonésie. Le mouvement anti-vaccin en Indonésie est plus répandu parmi les groupes religieux qui pensent que les vaccinations ne correspondent pas à leurs croyances. Ce message a été transmis par le directeur de la santé familiale du ministère de la Santé, Eni Gustina, à Jakarta mardi. Selon Eni Gustina, cela n'est pas vrai car la vaccination est essentiellement un effort visant à prévenir l'apparition d'épidémies au sein de la société ou à réaliser une société saine. Par conséquent, le ministère de la Santé continue de lutter contre le mouvement anti-vaccin pour une éducation directe au public. Pour faciliter le processus d'éducation, le ministère de la Santé coopère spécifiquement avec des cadres ou des parties influentes d'un groupe communautaire en tant que pont de communication et agent de vaccination.
Jadi kita mengajak kader dari kelompok tersebut untuk juga menjadi petugas pelaksana.
Nous invitons les cadres du groupe à être également agents d'exécution. Il peut être notre entrée ou notre média pour communiquer avec sa communauté. Comme par exemple à Kuburaya, Pontianak, Kalimantan Occidental, ils ne veulent pas être vaccinés. Nous éduquons enfin le chef de l'agence pour devenir sage-femme, puis il est posté là-bas. Alors il devient un éducateur pour sa communauté. Et Alhamdulillah, il peut maintenant être ouvert. Associé à la question de la vaccination qui est souvent associée à la religion, selon Eni Gustina, le ministère de la Santé a pris une décision ferme en coopérant avec le ministère des Affaires religieuses de l'Indonésie et le Conseil des Ulémas de l'Indonésie, MUI. MUI, en tant qu'institution qui regroupe la communauté musulmane en Indonésie, a déclaré que la vaccination n'était pas interdite dans l'islam. En outre, MUI a également donné le fatwa halal aux vaccins utilisés par le ministère indonésien de la Santé. Selon Eni Gustina, la vaccination est l'effort de promotion de la santé le plus efficace au monde. Depuis son introduction pour la première fois, la vaccination a réduit le nombre de handicaps et de décès dus aux maladies infectieuses dans le monde. Par conséquent, le gouvernement de l'Indonésie continue jusqu'à présent à promouvoir la vaccination auprès de toute la communauté, en particulier les enfants qui sont vulnérables aux épidémies de la maladie. Le ministère indonésien de planification du développement national ou l'Agence indonésienne de planification du développement national, en coopération avec l'Association indonésienne des diplômés en économie, l'Association indonésienne des experts en économie islamique et la communauté nationale des finances islamiques, a tenu une conférence de haut niveau à Jakarta mercredi le 25 juillet. La mise en œuvre de la discussion est basée sur le développement rapide de l'économie islamique en tant que nouveau flux économique qui devrait pousser l'économie mondiale. Le potentiel économique islamique peut être vu de l'augmentation de la croissance de la population musulmane dans le monde qui atteindra 27,5% de la population mondiale totale en 2030. L'Indonésie, comme l'un des pays avec la plus grande population musulmane dans le monde, a un énorme potentiel pour devenir l'un des centres économiques de charia du monde. Le ministre du Plan de Développement National, en tant également le chef de l'Agence nationale de planification du développement, Bambang Brojonegoro, qui est devenu l'un des conférencières dans la discussion, est prêt à élargir la feuille de route pour encourager les efforts de l'Indonésie pour être l'un des centres mondiaux de l'économie islamique du monde. Jusqu'à présent, la feuille de route qui a été créée par le gouvernement indonésien, par le Comité national pour la finance islamique, est seulement dans l'industrie de la finance islamique ou n'a pas touché l'industrie halal qui est également encore important à l'économie islamique en global.
Nah, roadmap itu yang ada baru roadmap untuk keuangan syariahnya.
Nous avons seulement la feuille de route financière de la charia. Le Comité national sur la finance islamique lutte pour améliorer la feuille de route de l'économie de la charia. Nous croyons que notre industrie du financement de la charia ne serait développée que si nous développons également l'industrie halal. Notre industrie de la finance de la charia est encore considérée comme petite car notre industrie halal n'a pas été développée. Nous devrions devenir un producteur net pour améliorer notre financement de la charia. Bambang Brojonegoro a ajouté que la feuille de route devrait être achevée l'année prochaine ou à la fin de l'année afin que l'économie de la charia puisse être développée rapidement. Il a expliqué que l'industrie halal en Indonésie n'a pas progressé dans la bonne direction. Cette situation a affecté le développement de l'industrie halal indonésienne avec ses petits actifs. Ces conditions sont encore renforcées par la position de l'Indonésie en tant que consommateur net de produits industriels halal, car la consommation est supérieure à la production. Selon Bambang Brojonegoro, d'autres facteurs font que l'Indonésie n'est pas qu'un consommateur net de produits industriels halal, parmi lesquels il n'y a pas de coordination claire sur le développement de l'industrie halal elle-même, y compris dans l'industrie financière charia. L'entreprise sidérurgique chinoise Hebel Bishi Steel Group a investi 2,54 milliards dollars américains dans la province centrale de Java en Indonésie. C'est l'investissement de la première phase à Kendal. C'est ce qu'a affirmé le vice-gouverneur de Java Central, Heru Sujatmoko, à Antara, à Pékin, mardi soir, lors d'un dîner à Wisma d'Indonésie à Pékin, à l'invitation de l'ambassadeur d'Indonésie en Chine, Jauhari Oratmangun. La première phase d'investissement couvre une aciérie d'une capacité de 3 millions de tonnes, le charbon à coke d'une capacité de 2,4 millions de tonnes, une centrale électrique de 270 MW et les infrastructures complémentaires du quai d'une capacité de 100 tonnes de porc en route au DWT. Dans l'investissement du fonds, Hebei Bishi Steel Group, siégé à Tangshan, dans la province de Hebei, collabore avec le partenaire local Indonésie, PT Sifel Kawasan Industrie. En plus de fournir une infrastructure adéquate, il a également promis aux hommes d'affaires chinois de faciliter le processus d'octroi de licence. La ministre des Entreprises publiques, Rini Sumarno, a offert aux investisseurs américains des projets dans ce secteur en Indonésie, à savoir les énergies renouvelables, l'exploitation minière, les infrastructures, les installations terrestres, maritimes et aériennes, la fabrication et le tourisme. Madame Rini a indiqué mercredi dans un communiqué que l'Indonésie cherchait à développer ses ressources potentielles d'énergie renouvelable, notamment l'énergie géothermique, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. C'est ce qu'a affirmé la ministre Rini lors d'un forum sur l'investissement à Washington mardi. Elle a déclaré que les 7 secteurs sont répertoriés dans la priorité du développement du gouvernement pour accélérer le développement économique de l'Indonésie. Elle a expliqué que le gouvernement indonésien s'était fixé comme objectif que les énergies renouvelables représentent au moins 23% du bouquet énergétique du pays en 2025. Par conséquent, le gouvernement indonésien espère développer des projets d'énergie géothermique d'une valeur de 19,3 milliards dollars. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre « L'importance de comprendre la littérature numérique pour la société ». Actuellement, l'utilisation des gadgets dans la communauté est tellement ancrée dans la vie quotidienne, non seulement chez les adultes, mais aussi chez les enfants, même les tout-petits ont été introduits dans cet appareil dès leur plus jeune âge. Le phénomène de l'addiction de cet appareil chez les enfants et les adolescents est assez inquiétant. car il peut conduire à une perturbation de la croissance et du développement des enfants. Les interactions sociales peuvent être entravées. Anna Sukti Ariani, psychologue pour l'enfance et la famille, a affirmé que les parents qui ne sont pas fermes de limiter le temps des enfants pour jouer les gadgets, en particulier les jeux en ligne, est l'un des facteurs des enfants de l'addiction de gadgets. Un autre facteur est le manque d'alphabétisation des parents sur la technologie. Beaucoup de parents ne peuvent pas bien profiter de la technologie, si bien qu'ils ne savent pas que certaines applications ou contenus devraient être évités par les enfants. Protéger les enfants contre les mauvais effets de l'Internet peut se faire de différentes manières, notamment en ouvrant une page sûre et visible pour les enfants. Pour l'Indonésie, la compréhension de la culture numérique est très urgente, compte tenu le nombre de personnes qui migrent vers le cyberespace est très important. Les progrès technologiques doivent être rapidement compensés par l'intelligence de l'utilisation des dispositifs technologiques modernes. Ainsi, les avancées dans toute technologie sophistiquée doivent toujours être utiles et contenir la bonté pour la vie communautaire de manière globale, en particulier dans l'interaction sociale. Et tout doit commencer dès le moment où l'enfant connaît l'appareil numérique. Selon le président du Mouvement national de l'alphabétisation numérique, Dedi Permadi, il est important pour les parents de s'assurer que leurs enfants tirent le meilleur parti d'Internet. Ce mouvement dans ses activités fournit toujours information en alphabétisation numérique dans 140 villes en Indonésie. Il y a environ 90 000 personnes qui ont assisté à la formation. L'espoir et l'intelligence dans l'alphabétisation numérique, non seulement techniquement qualifiée pour accéder à l'Internet, mais aussi capable de filtrer diverses informations et divertissements sur l'Internet. Il faut nécessiter une approche multidimensionnelle dans le processus d'apprentissage de la communauté pour être éduqué numériquement. L'intelligence technologique créative est cultivée. Au milieu de la diffusion de l'information dans les médias numériques, la capacité d'alphabétisation numérique est une chose stratégique. Avec la socialisation massive et étendue de l'importance de la compréhension numérique, la coopération entre les parties, à la fois le gouvernement et la société, pour fournir un accès à Internet, sécurise aux enfants et aux adolescents pour réaliser les avantages de l'utilisation positive d'Internet. L'alphabétisation numérique encourage véritablement les résidents du monde numérique ou citoyens numériques à utiliser ces instruments technologiques avec plus sagesse. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 26 juillet. On commence par le 26 juillet 1965, l'anniversaire de l'Académie de l'Armée de l'Air. L'Académie de l'Armée de l'Air est une école de l'armée aérienne indonésienne à Yogyakarta, en Indonésie. L'Académie de l'Armée aérienne a généré les officiers de la force aérienne. Sur le plan organisationnel, l'Académie de l'Armée aérienne était dans la structure organisationnelle de la force aérienne dirigée par un gouverneur de l'Académie de l'Armée aérienne. L'histoire de l'Académie de l'Armée aérienne a commencé depuis la création de l'Institut de la première éducation de l'officier de l'Académie de l'Armée de l'Air à Maguwo, Yogyakarta, lors de l'époque de la guerre indépendance en 1945. C'est le premier institut de formation de l'Académie de l'Armée de l'Air qui est l'embryon de l'Académie de l'Armée aérienne en utilisant d'avions d'entraînement du type Churang produit en 1933. Le lieu de l'éducation est choisi à la base aérienne à Disucipto, Parce que cet endroit a une affinité historique avec la mise en place de l'armée aérienne et la mise en place de la première école de vol en 1946. Cela était également destiné à honorer et commémorer les héros de la force aérienne, le vice-maréchal de TNI Adi Sucipto, comme le fondateur de l'armée de la première école de pilotage. En septembre 1947, pour la première fois, l'école de pilotage de l'armée aérienne a reçu les jeunes Indonésiens formés en tant que pilotes étudiants. Coïncidant avec le 14e anniversaire de l'armée aérienne indonésienne, on a mené la première pierre de la construction du quartier général du commandement de l'Académie de l'armée aérienne indonésienne à Yogyakarta. Et le 26 juillet 1965, le quartier général du commandement de l'Académie de l'armée aérienne indonésienne a été inauguré et devenu comme l'anniversaire de l'Académie de l'armée aérienne indonésienne. Le 26 juillet 1965, l'indépendance des Maldives. Maldives est un pays insulaire dans l'océan Indien. Ibn Battuta est venu à l'archipel au 14e siècle avec les enseignements de l'islam, qui est devenu plus tard la région majoritaire des gens de Maldives jusqu'à présent. Au début du 6e siècle, les Maldives ont été colonisées par les Portugais et ensuite par la Hollande et la France. Et enfin, à la fin du 19e siècle, les Maldives ont été colonisées de nouveau par la Grande-Bretagne. À cette époque-là, les Maldives incorporaient dans le territoire de Sri Lanka. Après l'indépendance du Sri Lanka, la Grande-Bretagne a accordé le statut d'autonomie aux Maldives en 1965. Le 26 juillet, la Journée internationale de la mangrove. Le 26 juillet est désigné pour la Journée internationale de la mangrove à la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en novembre 2015. Lors de la conférence, l'Équateur a proposé le 26 juillet comme la journée de la mangrove, car certains pays d'Amérique du Sud ont longtemps commémoré cette journée, même si elle n'a pas été officiellement formée par l'organisme mondial. Les pays commémorent le 26 juillet comme la journée de la mangrove pour se souvenir de Heiho Daniel Nanoto, un activiste de Greenpeace de Micronésie, qui est décédé le 26 juillet 1998 à cause d'une crise cardiaque lorsqu'il a impliqué dans une manifestation massive organisée par les organisations environnementales Fandikol et Greenpeace International. Au cours de cette action, la communauté locale de Mouisné a rejoint plusieurs organisations non gouvernementales pour décharger des farmes de crevettes illégalement placées comme un effort pour restaurer la zone de mangrove endommagée à son état original. Fandikol et d'autres organisations environnementales commémorent chaque année la mort de Heiho le 26 juillet comme un avertissement pour sauver les mangroves. Et voilà la rubrique de l'histoire d'aujourd'hui des RLI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Les auditeurs, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans le programme de mon Indonésie. Le titre d'aujourd'hui est « Lipi encourage la gestion durable des ressources naturelles ». La collaboration entre le gouvernement, les acteurs économiques, les communautés et les autres parties prenantes est crucial dans la gestion des ressources naturelles. Cela a été dit par Bambang Subianto, le directeur adjoint de l'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, lors de l'ouverture de la conférence internationale de 2018 sur la réserve de biosphère, engagée le parti prenant en faveur de l'autonomisation des communautés à Palembang, Sumatra du Sud, lundi 23 juillet. Bambang Subianto a déclaré que le rôle de chaque partie prenante était important alors qu'il devrait être renforcé. Il est destiné à atteindre l'objectif du développement durable en 2030. Cette conférence internationale est un événement parallèle du 30e Conseil international de coordination du programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère, de 23 à 28 juillet 2018. Plus de 300 participants et de 50 pays membres de l'homme et la biosphère ont participé à cette occasion. À cette occasion, Bambang a spécifiquement souligné le rôle du secteur privé. Selon lui, le rôle des hommes d'affaires en Indonésie et dans de nombreux autres pays devrait être amélioré pour mettre en œuvre les résultats de la recherche à l'appui de l'industrialisation. Cela affectera le revenu et le bien-être de la société. Il a déclaré que l'Institut indonésien des sciences, en tant que point focal des programmes de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère en Indonésie avec le ministère de l'Environnement et des Forêts et des gouvernements locaux, continueront à promouvoir les réserves de biosphère pour encourager la gestion durable des ressources naturelles. Les réserves de biosphère sont les lieux où des gestions durables sont établies par des divers programmes tels que la gestion des ressources naturelles et des écosystèmes, le développement des services environnementaux, ainsi que la recherche et le développement. Bambang a également déclaré que depuis 1977 jusqu'à maintenant, l'Indonésie a déjà 11 réserves de biosphère. L'Indonésie a proposé 3 autres sites à l'UNESCO pour être reconnus comme les réserves de biosphère, à savoir Berbak Sembilang, Betung Kerihun Danau Sentarum, et Lemong Rinjani Lombok. Par ailleurs, le directeur général de la conservation des ressources naturelles et des écosystèmes du ministère de l'Environnement et des Forêts, Wiratno, a déclaré qu'il y avait un changement d'orientation politique. La société est maintenant un sujet sur la gestion et la préservation des ressources naturelles. De plus, Auguste Justianto, le chef de l'Agence pour la recherche et le développement et l'innovation, a déclaré que les ressources forestières en Indonésie jouent un rôle important dans la vie humaine. Il existe des défis pour assurer l'utilisation économique en conservant les forêts. C'est là que le rôle important de la recherche et du développement détermine. Voilà mon Indonésie.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quels moyens écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email foiquiz2018@voinews.id. Je répète, foiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
You're as bright as the sun. Breathe is the
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le Magazine Culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter la plage de Gigi Hiu. Six sites touristiques principaux existent dans des panneaux d'affichage des Jeux Asiatiques 2018. Les six destinations pour représenter les destinations touristiques indonésiennes de diverses régions dans les Jeux Asiatiques 2018 ainsi que pour promouvoir le tourisme indonésien. Ils sont le temple de Borobudur dans le centre de Java, la plage de Gigi Hiu à Lampung, le temple de Ulun Danu Bratan à Bali, Tanah Toraja à Sulawesi Dusut, et l'île de Padar à Nusa Tenggara Es. L'une des six destinations touristiques indonésiennes sera introduite, à savoir la plage de Gigi Hiu, située dans la province de Lampung. Cette place est située dans les régions de Tanggamus, Lampung. Le nom de cette place est assez effrayant, mais cela ne signifie pas que la place est effrayante. Il n'y a pas beaucoup de poissons prédateurs sur cette place, mais parce qu'il y a des roches et ont des contours nets. Les falaises sont naturellement disposées et ressemblent aux dents de requin. Les grappes de roches sont situées non loin de la place et possèdent une hauteur d'environ 10 mètres. Cette place a plusieurs noms et le mieux connu c'est le nom de la place de Pegadungan ou la place de Batu Layar. La place de Gigi Hiu est un groupe de plages situé dans la baie de Semaka, face directement dans l'océan Indien. Par conséquent, les vagues sur cette plage sont assez grandes. Il est déconseillé de nager ou bien de plonger sur cette plage. Contrairement à la plupart des plages qui offrent des activités marines, la plage de Gigi Hiu offre la beauté de son panorama naturel avec ses coraux imposants, de sorte que la plupart des touristes qui viennent capturent la beauté de la nature à travers la caméra. Le meilleur moment pour visiter cette plage est au lever ou bien au coucher du soleil. À partir de Bandar Lampung, la capitale de la province de Lampung prend 3 jusqu'à 4 heures pour atteindre Teluk Kiluan. La plage de Gigi Hiu est située à environ 5 km de la baie de Kiluan. Pour y aller, on peut prendre une moto ou bien une voiture de 4 roues motrices. Il n'y a pas d'hôtel, mais l'auberge est disponible dans une maison de résidence non loin de la zone touristique. Pour ceux d'entre vous qui veulent rester, vous pouvez camper sur cette place. Ce site touristique adjacent à l'attraction touristique de la baie de Kuluan qui a des dauphins. Après un voyage à la place de Gigi Hiu, n'oubliez pas de visiter la baie de Kuluan. Chers amis, c'est le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
La Voix de l'Indonésie à Jakarta dans le programme Ma langue comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Amis, nous nous rencontrons de nouveau dans le programme Ma langue. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la province Java-Ouest afin de connaître de diverses choses sur la langue sundanaise. Il n'y a pas de province définitive de l'origine de l'écriture sundanaise créée et utilisée par le peuple sundanais. Cependant, non seulement quelques manuscrits ou inscriptions de Java-Ouest qui datent d'avant le 14e siècle ont été écrits en utilisant l'écriture sundanaise qui est aussi appelée Aksara Kaganga, soit le script Kaganga. À cette époque, les anciens manuscrits de Java-Ouest appelés Kropak et utilisés des feuilles de palmier comme médium. L'un des manuscrits anciens au script sundanais est le manuscrit Charita Parahyangan qui était estimé d'avoir été fait au 16e siècle. Le manuscrit Charita Parahyangan contient l'histoire de la terre Sunda et de capitale du royaume Sunda à cette époque, à savoir Kraton Galuh et Kraton Pakuan. Le manuscrit Charita Parahyangan fait partie de la collection du Musée National Jakarta. La gloire du script sundanais avait obscurci pendant la période coloniale en Indonésie. À cette époque, le peuple sundanais était forcé par le dirigeant à abandonner l'ancien script sundanais. La situation a duré jusqu'à l'indépendance de l'Indonésie, de sorte que l'utilisation de l'ancien script sundanais dans la tradition de l'écriture sundanais a également diminué de façon spectaculaire. Ne restez pas silencieux, le gouvernement et les universitaires examinent, développent et préservent l'écriture sundanaise. Vers la fin des années 1990, l'écriture sundanaise standard a été établie et réintroduite. Jusqu'à présent, les élèves de la région de Java-Ouest sont tenus d'apprendre la langue et l'écriture sundanaise. Serviteur, c'est quelques couleurs en langue sundanaise. Bodas, en français, blanc. Koneng, en français, jaune. Hideung, en français, noir. Berem, en français, rouge. Hejo, en français, vert. Aussi. C'est l'exemple de phrase de sundanais. Mimin, anjen boga baju nu berem. En français, Mimin, avez-vous une chemise rouge? Titin, abdi te boga baju nu berem, lamun hideung kumaha. En français, Titin, je n'ai pas de chemise rouge. Qu'est-ce qui est noir? Tenanaon, nuhun Titin. En français, c'est bon, merci Titin. Serviteur, si vous avez des critiques et des suggestions, s'il vous plaît, écrivez-nous à www.voinews.id. Je répète, www.voinews.id ou à notre page de médias sociaux Facebook The Voice of Indonesia. Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VoiceIndonesia. Serviteur, c'était le programme Ma langue comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quel moyen écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email voiquiz2018@voinews.id. Je répète, voiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons la musique indonésienne. Merci à tous et à bientôt.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Serviteur, bonsoir. Voici le magazine musical qui s'agit des chansons indonésiennes, soit traditionnelles, pop et dangdut. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons des chansons nostalgiques chantées par le groupe musical indonésien Deloitte. Pour ouvrir notre rencontre, voici sa chanson intitulée Point d'étage. Bonne écoute.
Amen. kisah yang lalu sudah suratan ini terjadi. Jangan disesalkan lagi. Kasihnya
Sekretar Buna Dekut La Sangsong de Grup Musical Deloitte ang titule Pong Detach. Lema mereka de se grup musical song Barcel Van Houten kom gitaris, André Gultom kom saxofonis, flutis e chanteur, Shamsuar Hashim kom chanteur, Khairul Daud bateri, Budiman Pulungan klaviaris e Sangkan Panggabean basis. Ophil Dutang Deloitte a le nouveau membre à savoir Justian le deuxième guitariste, Johanne Fatmari da Susilo flûtiste et saxophoniste et Toto bassiste. Deloitte est connu par les amateurs indonésiens après avoir sorti son premier album avec le single Titik Noda en 1972. Sergita, écoutons donc maintenant la chanson Deloitte intitulée Quel est mon erreur et mon péché. Bonne écoute.
Dengan derita yang tiada dosaku sampai ku
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/frenca. Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157 Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.